uniquement par des personnels non grévistes.
Qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All you little boys have a comedy of errors. You bellow what your fellows get tamed like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You're midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, the end's well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. I do it as you like. You much ado about nothing. All you do is bite it. I'm too tight, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter tail. Titus Andronicus was bound to fail. So will you if a car like an Asher. That's suicide like...
Et bonsoir.
Bonsoir. Il est 19h passé de 3 minutes. Nous sommes le mercredi 3 décembre et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir un petit tour déjà en Israël et en Libye.
On va ensuite parler des SDF dont on veut se débarrasser.
Et puis mobilisation des écoles à Lyon, on aura un reportage.
Qui est les gendarmes aussi qui tentent de se déresponsabiliser de la mort de Rémi Fraisse.
Le procès de Pinard Sélec encore et toujours.
Suivi d'une rubrique « Faut que ça se sache » bien étoffée cette semaine.
Et puis après, si on a le temps, on verra bien, quoi. C'est ça.
Alors, en Israël, la coalition vole en éclats. Le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, a limogé hier ses ministres centristes. Donc, c'est des ministres, son ministre de la Finance et de la Justice, trop critique, selon lui, à l'encontre de sa politique qui mène sur la Palestine. Ce limogeage fragilise la coalition au pouvoir et a conduit Netanyahou à déclarer vouloir une dissolution du Parlement au plus vite pour des élections anticipées qui a priori se tiendront vers mars 2015. Donc, outre le Likoud, la coalition gouvernementale aux affaires est composée des partis centristes, donc Yesh Atid et Atuna, et du parti d'extrême droite Israël Beitenu et des ultranationalistes du foyer juif. Donc un gouvernement transitoire va être mis en place jusqu'aux prochaines élections, et à l'ONU, les initiatives se multiplient pour reconnaître un État palestinien. Rappelons qu'hier, l'Assemblée nationale en France a reconnu l'État de Palestine par 339 voix pour et 151 voix contre. Donc l'UMP avait dit très clairement qu'il s'opposait à cette mesure. Donc le texte n'est pas du tout contraignant pour le gouvernement. La résolution invite simplement l'exécutif à reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit. Donc ça, c'est cité donc dans cette loi. C'est un acte surtout symbolique qui est pourtant aussi un acte historique, car c'est la première fois que la France reconnaît l'État de Palestine. Et donc l'objectif pour les Palestiniens via l'ONU reste de mettre fin à l'occupation israélienne. En Libye, l'armée tente d'écraser des rebelles. Donc 7 personnes sont décédées et 25 autres ont été blessées hier mardi dans des raids aériens menés par les forces pro-gouvernementales sur la ville de Zouara, dans l'ouest de la Libye. Donc parmi les 7 tués figurent 5 travailleurs étrangers dont on n'a pas les nationalités, mais ce sont des Africains. Les forces loyales au général Khalifa Haftar et au gouvernement reconnu par la communauté internationale étaient derrière ces attaques. Donc Zouara ainsi que les autres villes amazighes de l'ouest libyen soutiennent Farj Libya. Donc c'est une coalition hétéroclite de milices. Donc ce que j'ai compris des articles, c'est la vague d'islamistes pas modérés qui se retrouvent aussi avec pas mal de jeunes qui ont fait la révolution. Et du coup, ces entre guillemets rebelles veulent faire tomber le général Haftar, puisque il est proche de Kadhafi, qui a supporté Haftar, qui a supporté l'ancien gouvernement de Kadhafi. Donc voilà, petite info pour dire que ça chauffe toujours en Libye et que c'est toujours très très complexe.
Alors maintenant, on va parler pendant un petit moment des SDF, parce qu'alors dites donc, vous allez voir, il fait quand même pas bon être SDF, c'est global, ça s'étend largement au-delà de la France, mais alors voilà. L'info du jour, la grosse info du jour, celle que vous avez facilement pu entendre sur des médias concurrents, c'est cette histoire de cartes de santé distribuées au SDF de Marseille. Donc c'est une idée lumineuse, semble-t-il, du SAMU social et de la mairie de Marseille. C'est un badge qui est censé être porté de manière visible, sur lequel il y a les noms, numéros de sécurité sociale et pathologies des personnes sans abri. Alors ce badge, sur ce badge, du coup, d'un côté, il y a un triangle jaune qui est censé être porté de manière visible, donc, et de l'autre côté, il y a le nom, le prénom, le numéro de sécu, les maladies chroniques, etc. etc. Les SDF, en réalité, n'ont pas été si contents que ça, puisqu'ils ont même créé un collectif qui s'appelle Le Jugement Dernier et qui a organisé une manifestation ce matin. Alors, ce qu'on dit par exemple Médecins du Monde, là, en la personne de Raymond Négrène, qui est le responsable de la mission de rue de Médecins du Monde à Marseille, lui il dit, voilà, il parle de problèmes de confidentialité, de stigmatisation, il dit que ça va à l'encontre de tout le travail qu'ils font. Et il dit, l'exercice de la médecine, même dans la rue, respecte l'éthique et le secret médical est dû au SDF comme aux autres. Du coup, bien sûr, on se baladait avec la liste de ces maladies qui est censée être visible sur soi, c'est sûr, c'est un peu limite côté secret médical. Alors voilà, alors bon, c'est la mairie de Marseille, pour se défendre, en la personne de Xavier Méry, qui est adjoint au maire et qui a adjoint au maire à l'intégration et à la lutte contre l'exclusion. Lui, il dit qu'il parle de polémique absurde autour de cette histoire. Et lui, ce qu'il dit, c'est que cette carte n'a pas vocation à être visible de tous. Bon, alors en réalité, du coup, les SDF sont censés la porter de façon visible. Alors ça doit être le côté triangle jaune qui doit être visible et pas le côté avec toutes les informations, mais enfin quand même. Qu'elle permet avant tout aux pompiers et aux personnels soignants de recueillir les données essentielles afin d'identifier, d'aider efficacement et souvent de sauver la vie de ces personnes dépourvues de tout lien social.
Et quand tu as une carte de groupe sanguin, ça permet aussi de, Dédé, ouais. T'as pas besoin d'avoir une carte spéciale.
Bah ouais. Non, mais ça a l'air un peu compliqué, toutes ces histoires, parce que effectivement, toute la question est de savoir si ça part d'une, enfin pas toute la question, une partie de la question est de savoir si ça part d'une bonne ou d'une mauvaise intention. Par exemple, la LDH fait l'analyse que, de toute façon, vu les scores du Front National à Marseille, c'est une manière de Godin de faire un truc plus faf que faf pour essayer de récupérer les gens. À côté de ça, le SAMU social, c'est pas forcément des camarades, mais bon, normalement, c'est pas des crapules au point de tomber là-dedans, et eux, ils trouvent que c'est une bonne idée aussi. Par contre, du coup, les SDF, en tout cas ceux qui s'expriment, bon, ce qui n'empêche pas qu'il y a déjà 150 SDF qui ont cette carte, hein, avec eux, qui l'ont acceptée, qui l'ont... Parce que on dit qu'ils vont devoir la porter, en réalité, il n'y a pas non plus d'obligation. Et ce que disent les associatifs qui râlent contre ça, c'est par exemple qu'il manque un cadre législatif, mais ceci dit, du coup, il n'y a pas non plus de cadre contraignant. Donc voilà, visiblement, il y en a qui la portent, sans doute ou peut-être aussi un peu par passivité, et puis d'autres qui râlent contre ça et qui, eux, parlent de stigmatisation. Enfin, moi, je lisais un article tout à l'heure où il y avait un SDF qui disait, bah moi, déjà, quand je m'approche de quelqu'un, les gens, ils flippent, mais alors si en plus, maintenant, j'arrive avec mon triangle jaune qui veut dire lépreux, ah non, SDF, pardon, et ben ça va être encore plus compliqué. Alors ça, c'était Marseille. Dans le Nord, pendant ce temps, dans le Nord, c'est pas spécialement les SDF plus que d'autres, c'est plutôt les gens qui ont pas beaucoup à manger, et qui comptaient sur les Restos du Cœur. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit de lundi à mardi? Un entrepôt des Restos du Cœur a cramé avec 90 tonnes de produits alimentaires.
Mais c'est criminel alors, cet incendie, ou pas?
Alors, bien sûr, la police est extrêmement prudente et ne tire pas de conclusion. Les autorités restaient très prudentes sur les causes et les circonstances de l'incendie. Il est très difficile pour l'instant de déterminer l'origine du sinistre, a déclaré le capitaine Galland. Blabla, blabla, blabla. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des témoins qui ont quand même vu le début de l'incendie et qui l'ont vu partir de deux endroits différents de l'entrepôt. Alors, ça voudrait dire deux accidents simultanés. C'est pas tous les jours. Après, on ne sait pas exactement qui serait assez une ordure pour aller cramer des dépôts des Restos du Cœur, quoi.
C'est pas des gens spécial. Plutôt d'extrême droite qui n'aiment pas trop les pauvres.
Ce serait un peu la seule explication qu'on verrait. Ça reste quand même vraiment, vraiment un petit peu fou. Alors ça, c'était... Pardon, je suis désolé, je renifle un peu à l'antenne. Ça, c'était dans le Nord.
Ça te rend plus humain.
Merci. Et ben maintenant, on n'a qu'à aller voir en Floride. Alors en Floride, ben ça va mieux pour les SDF, parce qu'un juge américain a suspendu, donc je ne sais plus la date, hein, mais récemment, l'interdiction de nourrir des sans-abri dans une station balnéaire de Floride.
Sympa.
Alors ça, c'est un article du Figaro qui raconte ça. Une victoire partielle pour un ancien combattant de 90 ans qui, lui, bravait les autorités en continuant à nourrir les mendiants. Eh ben oui, donc c'est un juge du comté de Broward qui a levé pour une durée de 30 jours, hein, pas pour toute la vie, une ordonnance qui a été entrée en vigueur fin octobre dans la ville de Fort Lauderdale et qui interdisait la distribution en extérieur de nourriture aux pauvres. Les autorités de cette ville avaient invoqué des raisons de sécurité publique et de santé, bien sûr.
Mais oui, parce que vous savez que la nourriture fait gonfler les estomacs des pauvres.
Ça doit
et du coup, c'est nocif.
Et donc c'est ce gars qui s'appelle Arnold Abbott qui est un vieux militant, quoi, et lui qui est connu pour filer de la bouffe aux gens qui vivent dans la rue depuis toujours, enfin en tout cas depuis 20 ans. Et donc il a été arrêté, il risquait 2 mois de prison et $500 d'amende. Il s'appelle Chief Arnold. En fait, il s'appelle Arnold Abbott. Mais en tout cas, le fait que lui soit arrêté, ça faisait un peu le vieux gentil nanan, ça a fait que... En tout cas, que ça a brassé un peu autour, et donc il y a un juge qui vient de lever ce truc-là pour une durée
pour un mois seulement, c'est ça.
C'est ça. Mmh. Et il faut quand même savoir que depuis janvier 2013, 39 villes états-uniennes ont restreint les possibilités de donner à manger aux sans-abri.
Et ouais.
Allez, on se rapproche de la région lyonnaise, hein, parce que il y a pas non plus que les Américains qui sont comme ça. C'est que vous vous souvenez du père Riffard?
Non.
C'était ce curé à Saint-Étienne qui a été jugé déjà en juin dernier pour avoir hébergé à la paroisse des demandeurs d'asile.
Il avait ouvert son église sur les hauteurs de Montréal.
Ouais, c'est ça. Et du coup, il héberge, je sais plus, mais quand même pas mal de monde, une grosse centaine de personnes, je crois. Bon, là-dessus, la mairie de Saint-Étienne a fait un arrêté municipal pour dire qu'il fallait que les gens dégagent, parce que oula, c'était très dangereux pour eux, parce que les toilettes n'étaient pas aux normes. Alors il fallait vite qu'ils retournent dans la rue. En tout cas qui sortent de cet endroit où les toilettes n'étaient pas aux normes et puis il manquait des lavabos par rapport au nombre de personnes hébergées et tout ça. Donc très très grave de la part de ce curé complètement inconscient qui essaie vraisemblablement de tuer ses sans-abri en les faisant dormir à l'intérieur quand même. Bon, ceci dit, le premier juge qui a jugé l'affaire, c'était le 11 juin, a quand même considéré que, en plus, du coup, c'est des demandeurs d'asile. Hein. Alors, il faut quand même bien être conscient que dans la loi française, les demandeurs d'asile sont censés, pendant toute la durée de leur demande d'asile jusqu'à avoir une réponse, être logés par l'État. Donc là, le juge, il avait dit à l'époque que je retrouve. Il avait dit qu'il était quand même paradoxal que l'État poursuive le père Riffard pour avoir fait ce qu'il aurait dû faire lui-même. En d'autres termes, l'État n'est pas recevable à faire condamner quelqu'un qui a mis en œuvre une liberté fondamentale dont il était lui-même débiteur. Ça, c'était le jugement du 11 juin. Mais bon, du coup,
il a fait appel. Ça, c'est sûr.
Alors le curé, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Il dit ce jugement devait être gênant par rapport à l'organisation actuelle de l'hébergement d'urgence. Et voilà, bon, le curé.
Ça devait arranger quand même. Pas mal.
Ce qui arrangeait, c'est que. Ce qui arrangerait quand même visiblement, c'est que les sans-abri, du coup, là en l'occurrence demandeurs d'asile, mais autrement non, disparaissent de la surface du globe visiblement. Parce qu'en même temps, s'ils sont pas hébergés par le curé, en l'occurrence, ils sont vraiment dehors, ça c'est pas non plus acceptable pour l'État. Je vais me dépêcher. En tout cas, qu'est-ce qui a été. Donc le père Riffard était à nouveau jugé aujourd'hui. L'avocat général a désigné l'acte du père Riffard comme transgression de la loi en connaissance de cause, de ce fait passible, disait-il, donc c'est ce qui a été requis, d'une amende de 5 euros par jour d'hébergement, soit une totalité de 1195 euros pour les 239 jours qui sont déjà passés depuis l'arrêté municipal. Le prêtre a tout simplement répliqué que son histoire devrait être suffisante pour conscientiser l'État sur l'état actuel de la société dans laquelle on vit. Le verdict, en tout cas, est attendu pour le 27 janvier prochain. Not a desperate man with a jewel I take from Peter to go and pay full some rise by sinning my virtue fool. What have you made if you gain the whole world?
Et on revient sur le collectif Jamais sans toi. On avait reçu une personne mobilisée la semaine dernière qui nous en avait parlé un petit peu. Et ben du coup, je vous le rappelle, depuis le jeudi 20 novembre, et il y a plusieurs écoles lyonnaises qui sont occupées à l'initiative de ce collectif. Il et elle demandent de pourvoir un logement aux enfants et à leurs familles sans domicile. Lors de la rencontre avec la préfecture, celle-ci s'est escrimée à nier l'urgence pour les 200 enfants scolarisés sans logement cet hiver. Les comités locaux des écoles Jean Villard à Vanvelin, Gilbert Dru dans le 7e, Jean Giono dans le 8e et Michel Servet dans le 1er et Victor Hugo dans le 1er ont décidé donc de poursuivre leurs occupations afin de permettre aux familles de ne pas dormir dehors. Il y a d'autres écoles qui ne sont pas occupées mais qui sont mobilisées aussi. Il y a toute une longue liste dont je ne vous ferai pas l'inventaire exhaustif. Sachez qu'il y a jeudi demain, 4 décembre, un bal, le bal à Bistan, en soutien aux écoles occupées. Un concert de soutien, c'est donc à partir de 17h45 au gymnase de l'école Michel Servet, qui est derrière le métro Croix-Paquet. Et on va tout de suite écouter un reportage à l'école Jean Giono.
Alors un reportage qui a été fait, c'est un son qui a été pris lundi soir et qui a été fait par quelqu'un qui est surtout passé filer un coup de main pour l'occupation. Il faut bien vous avouer que on a, pour des histoires de problèmes de réception de fichiers, on n'a pas eu le temps d'écouter ce son, donc on le découvre en même temps que vous. Ah, on n'a pas l'air de le découvrir énormément.
On le découvre ou...
On pourrait même dire qu'on ne l'entend pas.
On l'entend vraiment au fond.
Non, moi j'entends rien du tout. Eh bien, peut-être on pourrait passer à la suite, le temps de régler ce problème technique.
Attends.
Faites comment ?
La magie de Radio Canu.
Ok, passons à la suite.
Ah, mince. Je pensais dormir un petit moment. Alors, on va parler de Rémi Fraisse et les gendarmes qui se déresponsabilisent de sa mort. Ah, nous entendons le reportage.
Vas-y.
Non, je continue. Du coup, le rapport administratif sur le drame de Sivens et la mort de Rémi Fraisse n'attribue aucune faute professionnelle aux gendarmes. Donc c'est assez hallucinant, une conclusion qui vise à dédouaner la stratégie répressive de l'État. Donc selon l'IGGN, donc c'est la police des gendarmes, etc., qui mène l'enquête, la préparation de la manifestation du 25 octobre privilégie la concertation avec les avec les organisateurs et le souci d'apaisement jusque dans le dispositif opérationnel retenu par le commandement de groupement le 25 octobre. En début d'après-midi, et ce malgré les affrontements violents de la nuit précédente. Donc ça, c'était une citation de l'IGGN, et donc ça montre que les gendarmes auraient bien agi puisqu'ils n'auraient pas attisé plus que ça la violence des manifestants. Et une autre citation. Face à des manifestants particulièrement violents tirant avantage de la nuit et du terrain, l'emploi de la force puis l'usage des armes se sont imposés très rapidement au commandement de la force publique. Donc voilà, ça c'est ce qu'affirme l'inspection dans son rapport. Donc en d'autres termes, donc il justifie le fait que les gendarmes aient utilisé la force cette nuit-là. Et le fait que Rémi Fraisse est mort d'une grenade offensive tirée par un des gendarmes. Et du coup, ce sera maintenant à la justice de se prononcer sur le degré de responsabilité du lanceur de grenade. Donc, ce qui veut dire que toute la brigade n'est pas, n'a plus de soucis. Et du coup, c'est la personne qui a lancé la grenade qui va peut-être avoir un souci avec la justice. Mais vu comment tout ça, pour l'instant, est rédigé, il y a peu de chances quand même qu'il soit vraiment beaucoup embêté, ce gendarme. Et surtout que dans cette enquête, il parle, ce rapport administratif, il parle pas du tout, bizarrement, des 7 minutes pendant lesquelles les gendarmes ils ont vu direct que Rémi Fraisse il était tombé, mais que personne n'est intervenu. Et du moins, les flics ne sont pas intervenus. Et il a fallu plus de 7 minutes pour qu'ils se disent « Ah, peut-être il faudrait aller sur le terrain », alors que dès le départ, ils voyaient qu'il bougeait plus et qu'il était tombé. Bref, voilà, ça, ils en font complètement l'impasse dans le rapport. Et sinon, les députés écologiques, les Verts et de leur côté on a obtenu l'installation d'une commission d'enquête parlementaire sur donc les violences de Sivens, et cette enquête parlementaire est menée par Noël Mamère. Donc eux, ils parlent de mensonges de la part de Cazeneuve, notre cher ministre de l'Intérieur. De leur côté, les proches de Rémi Fraisse et des associations organisent une commission d'enquête citoyenne sur sa mort. Voilà les différents recours, en tout cas juridiques, qui sont mis en place. Et je voulais finir par un petit article en anglais que j'ai trouvé. C'est en Nouvelle-Zélande, donc contre les assassinats de la police et pour Rémi Fraisse. Des tags ont été inscrits sur la porte centrale de l'ambassade de France à Wellington. Et c'était « They killed Rémi, smashed them ».
Et bien alors maintenant on va aller à Roibon où la lutte contre le Center Park se poursuit. Dimanche 30 novembre, il y a une nouvelle manifestation sur le chantier du futur Center Park, ex-futur Center Park dirons-nous, qui a réuni plus d'un millier d'opposants et opposantes à l'entreprise Pierre et Vacances. La petite promenade s'est achevée à la maison forestière appelée La Marquise, qui est une propriété abandonnée de l'ONF, c'est les forêts. Elle est désormais occupée, et elle n'est plus vide, par les opposants et opposantes, du coup, jusqu'à l'abandon définitif du projet. Une ZAD supplémentaire a donc vu le jour, et c'est en Isère. Avant-hier lundi, les travaux de déforestation n'ont pas repris, puisque dès l'aube, l'opposition au projet est montée sur les machines et a empêché les ouvriers de faire leur boulot. Et enfin, mardi, hier, il y a deux trucs qui sont arrivés. Il y a Jean-Jacques Kerran, le président PS de la région Rhône-Alpes, qui a demandé au préfet de suspendre les travaux en attendant les résultats des recours administratifs sur le projet. Puisqu'en effet, le tribunal administratif de Grenoble doit examiner le 12 décembre plusieurs recours d'associations demandant la suspension des travaux de défrichement. Les opposants au projet mettent notamment en avant l'enquête publique au titre de la loi sur l'eau qui a rendu cet été un avis défavorable, mettant en avant l'impact néfaste du futur complexe touristique sur les zones humides attenantes. Et hier aussi, eh bien, il y a un huissier de justice qui est venu accompagner des keufs pour constater l'occupation de la maison. Mais voilà, c'est tout. Il y a un prochain rendez-vous en tout cas qu'on annonce. Ce sera samedi prochain, 6 décembre, à 18h, à Roibon, pour une marche au flambeau en direction du chantier. Il est demandé d'amener flambeau, frontal, tambour et trompette. Vous avez toutes les infos sur le site de cette ZAD, ZADROibon, ZADROYBON.wordpress.com.
Est-ce qu'on pourrait pas quand même faire une petite analyse qui dirait que la mort de Rémi Fraisse a changé un petit peu des choses, parce que jusque-là, par exemple, les pouvoirs publics n'avaient jamais trouvé qu'il était nécessaire d'attendre que les recours soient épuisés pour commencer les travaux, non ?
Ouais, je pense l'acharnement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, déjà, plus la mort de Rémi Fraisse, je dirais qu'il y a quand même un peu les deux aussi...
Surtout que sur les médias, en tout cas, ça se voit, puisque la plupart des gros médias parlent de cette ZAD de Roibon, alors que il a fallu attendre plusieurs années pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour que ça en parle. Et je pense que donc c'est vraiment effectivement les deux ensemble.
Après, je pense que à force de justement d'analyse et de temps, et à une espèce de prise de conscience que ce phénomène de ZAD, il est en vrai développement et qu'il y a une alternative politique un peu qui est en train d'être créée et d'être portée de plus en plus, en tout cas pour plein de gens. Alors que bon, le terme de ZAD, il existe depuis longtemps, mais pour plein de gens maintenant, qu'il y a une espèce d'alternative qui est présente comme une nouvelle forme de combat, d'occupation ou de résistance, même s'il y a des mots qui fâchent dans tout ce que j'ai dit, mais.
Et puis je pense qu'il y a aussi les écolos citoyennistes un peu de tout poil qui multiplient les recours en justice qui permettent de fait de prendre du temps. Et ils trouvent, en termes européens, ils trouvent toujours plein de recours à faire pour que ça fasse prendre du retard énorme sur les chantiers.
Allez, on retente un coup le fameux...
Sur les écoles lyonnaises occupées, c'est ça ?
C'est ça.
C'est agent Giono, plus précisément.
Ah, il se fait attendre celui-là aujourd'hui. Ah,
il se fait attendre. Alors cette fois-ci, on dirait que c'est un souci dû au fil, parce que...
Aïe, aïe, aïe.
Ah non, mais attends.
C'est pas tout le temps les soucis techniques. Mais...
Aujourd'hui, on est en plus.
Voilà, voilà. Bon, bah, moi, je vais vous parler du procès de Pinard Sélec à Lyon. Donc, le 5 décembre, le collectif Pinard Sélec Lyon invite à se joindre à Pinard pour l'entourer au moment de son procès. Donc, parce qu'à Istanbul, une importante délégation internationale de solidarité et d'observation, dont une trentaine de personnes au départ de la France, assistera à la reprise du procès de Pinard Sélec. Donc, si je redis qui est Pinard Sélec, c'est une militante turque, féministe, qui soutient les Kurdes, les travailleuses du sexe, etc., qui avait été accusée d'avoir fomenté un attentat et qui est en procès depuis longtemps et en asile en France. Et il y a une idée de suivre en direct le procès. Ils seront en liaison directe avec la délégation présente à Istanbul et ça sera de 10h à 13h au Lavoir Public 4 impasse Flessel à Lyon 1er. Et maintenant, nous allons écouter le reportage fait lundi soir sur les écoles lyonnaises occupées.
En tout cas, nous allons essayer encore une fois de l'écouter. C'est parti.
C'est le feuilleton de la soirée.
Ah, Hercule Saint-Girons.
Vous avez quel âge à peu près?
11 ans.
8 ans et demi. 8
ans et demi, toi t'as quel âge?
7 ans.
7 ans et toi?
8 ans
et demi. Toi? Qui c'est qui est à l'école ici?
Moi.
T'as l'école ici, toi?
Oui.
Dans classe.
Moi.
C'est comment?
T'as l'école ici aussi?
Oui.
C'est vrai?
Moi aussi.
Toi aussi? Toi aussi?
Oui.
Tout le monde à l'école, toi non, du coup?
Moi.
Vous faites quoi ici? Pourquoi vous êtes à l'école maintenant? Vous dormez à l'école?
Oui.
Ouais? Depuis oui. quand?
Je vais arrêter.
Et c'est sympa de t'emmener à l'école, on s'amuse bien?
Oui.
Ouais. Qu'est-ce que tu, comment ça marche? Vous dormez où?
Bah, à la rente.
Et
chaque fois mieux.
Et vous mangez tous ensemble le soir? Vous faites comment?
Oui, on mange tous ensemble.
Ah, c'est bien ça. Et c'est bon ce qu'on mange?
Oui.
C'est qui fait à manger?
C'est le directeur,
le maître. Et c'est quoi du coup pour l'instant? Vous jouez? Et vous jouez comme c'est quand vous jouez dans l'école? Vous jouez
voiture.
Une voiture? Et c'est sympa les repas et tout, vous amusez bien ensemble ou pas?
Oui, oui.
Ouais, vous êtes des copains du coup?
Oui.
Et le matin vous faites comment?
On se lève à 6h. Après, on se lève à manger. Après, on enlève
notre
tente. Après.
Non, d'abord, on
joue un petit peu. Après, les gens, ils viennent.
D'accord.
Non.
Les autres enfants, ils arrivent, tu veux dire?
Oui,
ouais.
À la garderie.
Et ça se passe bien avec les autres enfants? Vous les connaissiez avant et tout? Vous avez fait des copains dans l'école?
Oui.
Ouais. Mais ça fait longtemps que vous êtes dans cette école-là ou pas?
Oui.
Non.
Tu fais combien de temps, toi?
2 semaines, je crois.
Ah non, mais à dormir, mais être élève, pour être côté que t'as une maîtresse de cette école.
Un an et demi.
Un an et demi? D'accord. Et toi?
Je sais pas.
Tu sais pas?
Même moi.
2 ans.
Toi aussi 2 ans?
Oui.
Et c'est la première fois que vous dormez dans l'école ou pas?
Oui, c'est la première fois. Bien qu'on soit tout le monde même comme les autres enfants.
Qu'est-ce qu'on a mangé ce soir?
On a mangé
chili.
C'était bon?
Du fromage.
Ouais.
On a mangé des noix.
Et là, vous allez faire quoi maintenant là?
On va jouer, après on va dormir.
Je vais aller vous laisser jouer et dormir. Ça avait l'air sympathique, la grande table, tout le monde mangeait ensemble.
Oui, tout le monde mange ensemble, on passe bien ensemble.
Et à samedi, dimanche, vous avez fait quoi? Du coup, vous étiez tous ensemble, vous avez joué dans la cour?
On a regardé un film.
Ouais.
Oui.
Du coup, vous avez fait une demande pour avoir un logement, pour avoir un place d'hébergement?
Oui, on a appelé le C15, mais il dit toujours qu'il n'y a pas de place. On attend. Oui,
Tu peux demander à tes parents s'ils ont demandé quelque chose?
Ma mère, elle m'a dit que j'ai besoin que vous nous aidez parce que moi, je veux laisser les enfants qui font la scolarité ici en France parce que j'aime, il y a le respect et il y a tout. Que j'aime en France. Ma mère, elle m'a dit, je vous remercie à vous, à directeur, à tout le monde. Elle a dit, je sais pas si ça va marcher, ça va être bien, mais si même si ça va pas marcher, quand même merci à vous, elle a dit, parce que vous avez fait tout ça pour.
Et je voulais dire, je sais pas, si on finit là et si on trouve rien. Je sais pas, on va se trouver vraiment dehors. Et Et je sais pas, j'en ai marre de ça. Parce que vu, on a quelque chose, ça passe, on est là-bas et après c'est fini, après on se tourne dehors. Toujours comme ça et un jour je crois que, je sais pas, je pense que ça va être le premier quelques mois qu'on est venu ici, la tête dans la tête. Et qu'on a fini notre procédure avec le froid et tout, on avait un mois et après on a sorti. Et on va demander, parce que c'était au mois d'hiver, et ils sont obligés de trouver quelque chose, parce qu'on était en recours, ils se sont donné un foyer qui était à Cousset. Après, quand on a fini avec Cousset, nous, on ne voulait pas sortir de ce foyer, parce que, je sais pas, c'était un endroit.
Oui, c'est normal.
Bonsoir.
Pour un soir donné et on essaye de se répartir les jours et après on s'organise de nouveau repas et autres quoi.
Et de quoi pour les repas, c'est-à-dire c'est que c'est chacun fait chez soi ou vous faites la nourriture ensemble ici? Il y a...
Ça dépend.
Ouais.
Ça dépend les jours. Là aujourd'hui c'est quelqu'un qui a préparé à manger. Mais les week-ends, ou l'autre fois, ils ont préparé la compote en commun ici, donc voilà, ça dépend les moments.
Comment ça s'est organisé? L'année dernière, on avait déjà fait une action pour une famille. On était quand même prêt à le refaire. Pour d'autres familles, on avait déjà parlé à d'autres familles pour leur proposer. Et c'était pas évident pour ces familles de le faire déjà. Ça dépend aussi des familles, parce qu'elles s'engagent à la mobilisation ou pas. Enfin, on ne peut pas le faire sans leur accord. Et puis là, on peut dire que les gens sont prêts, enfin les parents sont prêts, l'équipe suit derrière, donc quand les gens sont prêts, ça se fait. Et ça se construit comme ça.
Et du coup, vous répartissez les nuits
Voilà, on s'est organisé pour les nuits, on essaye d'être au moins deux pour que ça se passe bien. Puis les parents, ça se fait naturellement, ils apportent à manger.
Comment vous faites pour nourriture et tout ça,
ils font chez eux. D'accord. Les parents font chez eux. On a cuisiné ici aussi. L'année dernière, on avait cuisiné ici, pareil. Mais on ne se dit pas vraiment on va faire ça, enfin on le fait au fur et à mesure, c'est ce que je veux dire. On construit au fur et à mesure et ça se coupe bien. On a des gens du quartier qui passent aussi.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? C'est des choses qu'il faut amener, de quelle manière le soutien peut se...
Alors pour l'instant on parlait surtout de la caisse de solidarité, parce que là au bout de presque deux semaines, nourriture, nuitée, permanence, c'est assez rodé. Ça roule. En revanche, l'argent, les courses, ça s'épuise quoi, c'est sûr. puis bon, on aimerait, vu comment c'est pas ce que va être l'après, on aimerait que les familles profitent aussi un peu d'un petit peu d'argent juste pour elles, quoi. Et moi, je passe de bons moments ici, hein.
Venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. J'dégueule les lois mises en place. J'dégueule les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Et on va commencer ce Faut que ça sache avec quelques chiffres, puisque le rapport 2013 des associations qui sont présentes dans les centres de rétention et les locaux de rétention viennent de sortir. Alors du coup, effectivement, depuis avril 2009, et du coup, le ministre de l'émigration de l'Or, Éric Besson, il y avait eu une procédure d'appel d'offres qui avait fait que il y avait la répartition de l'intervention dans les centres de rétention qui s'était répartie entre plusieurs assos. Alors, pour petit rappel, du coup, il y a la CIMAD qui était la seule jusqu'en 2009, qui est dans les centres de Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, Hendaye, Nîmes, Perpignan, Sète et Ménilamlo. Il y a l'Ordre de Malte qui est à Lille, à Metz et à Gaspolsheim. Forum Réfugiés qui est au CRA de Lyon, à Marseille et à Nice. Et enfin, le collectif Respect qui s'occupe de tous les territoires d'outre-mer. France Terre d'Asile qui est... Oui, tout à fait. D'ailleurs, les chiffres vont le prouver. France Terre d'Asile, du coup, Palaiso, Plaisir, Coquel, c'est dans le Pas-de-Calais, et Rouen. Et enfin, l'association Service Social Famille Migrant, dont je n'avais jamais entendu parler vraiment précisément, à Bobigny et à Paris. Alors du coup, l'avis sur la fonction de ces assos est hyper partagé, puisque d'un côté, ils sont en contact et peuvent être une aide administrative pour les retenus, mais il y a des retours de l'intérieur qui semblent se rejoindre pour dire que souvent, il est difficile d'avoir des rendez-vous déjà, et qu'il arrive qu'ils communiquent des informations à la PAF, la police des frontières. Méfiance donc, il vaut mieux, a priori, les utiliser, mais... pas trop s'y livrer en toute confiance comme ça. C'est pas totalement des super amis. Et il y a aussi certaines personnes qui pensent que ces assos occupent le rôle de caution humanitaire à la gestion des indésirables par l'État et qu'elles se contentent d'une dénonciation de dysfonctionnement plutôt que d'une critique réelle portée sur l'enfermement des migrants et migrantes. Mais en tout cas, elles ont accès précisément aux chiffres de ces centres, et donc les voici. En 2013, il y a 51 844 personnes qui ont été expulsées. 20 823 depuis la France, dont 7386 retours dits volontaires. Souvent, ça s'achète, le retour volontaire. Et effectivement, en Outre-mer, 23 635 expulsions. C'est donc bien ce qu'on dit au fur et à mesure de l'année, hein, c'est que le gros du combat par rapport à l'immigration en France se passe pas du tout dans l'Hexagone, mais dans toutes ces anciennes colonies. Il y a 45 377 personnes qui ont été enfermées en centre de rétention, 26 000, donc plus de 26 000 en France et près de 19 000 en Outre-mer. La grande majorité des personnes ont été arrêtées lors de contrôles dans la rue et lors de rafles, ainsi qu'aux frontières. Tout ça, ça fait environ 10 000 personnes. Les autres lieux d'arrestation massive sont bien sûr les gares, qu'il convient d'éviter dans beaucoup de situations, et les prisons, qu'il convient encore plus d'éviter dans toutes les situations. Et les derniers chiffres de ces assos permettent de faire une espèce de palmarès des évasions 2013. Et le record haut la main est, comme d'habitude, la star des CRA en France, le CRA de Vincennes, avec 24 évasions cette année.
Ouais!
suivi de pas trop loin par celui de Marseille, le célèbre Cra du Canet avec 17 évasions. Et voilà, c'est les tenants du podium, parce que derrière, du coup, en pole position sur la troisième place, avec 5 évasions, il y a Coquel dans le Pas-de-Calais et Gaspoil-Zam, c'est-à-dire à Strasbourg. 4 évasions à Palaiseau, 3 à Lille-Léquin et à Metz. 2 évasions ex aequo aussi pour Lyon-Saint-Aix, toujours un peu à la traîne, et Andaille. Et enfin, une évasion pour Ménilamlot, Perpignan, Rennes-Saint-Jacques, Rouen-Oissel, Nice, Nîmes-Courbessac, soit 71 évasions, 13 de plus qu'en 2012. Jingle.
Il faut que ça se sache.
Eh ben, on continue un peu dans les rapports. Là, je vais faire un rapport sur Mare Nostrum. Où est-ce qu'on en est? Donc, la situation reste bien évidemment très confuse en Méditerranée centrale. Donc, l'opération Mare Nostrum de la marine italienne, qui, malgré son caractère militaire, avait permis d'aller au-devant des bateaux d'exilés en détresse jusque dans les eaux libyennes, a été prolongée de 2 mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Et les positions européennes qui prévoyaient au départ un remplacement de Mare Nostrum par Triton s'étaient peu à peu infléchies, jusqu'à rappeler que le sauvetage en mer restait du ressort de l'Italie et que Triton n'avait pas vocation de s'y substituer, puisque c'est un organisme européen. Donc Triton s'est aussi appelé au départ Frontex Plus. Donc peut-être ça évoque plus de choses à des gens, Frontex Plus, donc Triton. Opération coordonnée par l'Agence européenne de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Elle s'est déployée début novembre dans les eaux méditerranéennes. Donc son rôle est la surveillance de la frontière maritime de l'Italie, mais aussi l'identification des exilés interceptés en mer. Son rôle est donc en lien avec le fait que l'Italie ait recommencé à prendre les empreintes digitales des exilés, ce qui en fait, dans la majorité des cas, le pays responsable de leur demande d'asile, selon le règlement Dublin III. Vous suivez jusqu'à présent? Donc, en principe, les rôles sont clairs. Donc, Mare Nostrum a un rôle de sauvetage en mer et peut se porter au-devant des bateaux en détresse jusque dans les eaux libyennes. Et Triton se tient à la limite des eaux italiennes et a une mission de surveillance de la frontière. Mais, du coup, des personnes ont pu voir notamment un bateau portugais opérant dans le cadre de Frontex aller au-devant d'un bateau dans les eaux libyennes et ramener ses occupants en Italie. Donc, pour l'instant, une certaine confusion règne dans les eaux, parce que, heureusement que des humains aident d'autres humains.
Même s'ils n'ont pas du bon côté de la ligne, oui.
Voilà, et qui, même s'ils sont censés juste faire du fichage et de la surveillance. Donc, en parallèle avec ces opérations maritimes, un processus diplomatique s'était mis en place. Donc, en parallèle au processus de Rabat qui vise à impliquer les États du sud de la Méditerranée dans la lutte contre l'immigration non souhaitée par les États européens en Méditerranée occidentale et donc vers l'Espagne, se met en place le processus de Khartoum. Pardon. Il a les mêmes objectifs appliqués à la Méditerranée centrale, donc vers l'Italie et vers Malte. Et pour partenaires des États comme le Soudan, l'Érythrée et la Somalie. La première rencontre du processus a eu lieu à Khartoum du 13 au 16 octobre 2014 et la seconde a eu lieu le 28 novembre. Dans ses conclusions, la lutte contre le crime organisé et la traite des êtres humains et surtout la création de camps pour accueillir les réfugiés en Afrique et dans ces pays a été discuté. A noter que Omar el-Béchir, président du Soudan, dont la capitale a accueilli la réunion de lancement du processus, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale.
Il faut que ça se sache.
Et à présent, je vais vous parler d'un manifeste qui vient d'être publié par deux associations. Les Amoureux au banc public, c'est une association pour le mariage mixte, et la CIMAD, dont on a parlé à présent, mais qui des fois disent des choses bien. Du coup, ces deux associations s'opposent à deux projets de loi qui sont en cours de travail. Un projet de loi sur la réforme de l'asile, actuellement discuté à l'Assemblée, et un autre sur une réforme de l'immigration qui le sera au printemps. Du coup, je vais faire une synthèse rapide des critiques apportées à ce projet de loi sur le droit d'asile. Puisqu'une nouvelle réforme du droit d'asile et des conditions d'entrée de séjour des étrangers se prépare. Elle s'inscrit dans la logique des politiques migratoires européennes qui traitent les migrants comme une menace à tes souhaits dont il faudrait se protéger.
Il a failli tomber quand même.
La technique, c'est de haut vol ce soir. Une menace donc dont il faudrait se protéger. Notamment par la construction de murs, de clôtures, les opérations de surveillance et de contrôle renforcés aux frontières, ainsi que le durcissement des règles de délivrance des visas. Ainsi, ces projets de loi ne répondent pas du tout aux attentes du mouvement associatif de défense des droits des migrants. Aucune nouvelle mesure de régularisation n'est prévue pour les milliers de sans-papiers qui vivent en France, même si leur vie est déjà là et même s'ils ne peuvent pas repartir sans risque dans leur pays. Le projet de loi affiche l'ambition de faciliter, soi-disant, le parcours d'intégration des migrants. Il y a une des mesures phares, en fait, qui est envisagée, qui est la création d'une carte de séjour pluriannuelle pour certaines catégories d'étrangers. C'est-à-dire que ce ne sera pas que un an, mais plusieurs années. Alors, il y avait déjà la carte de 10 ans, mais là, ce ne sera pas la carte de 10 ans, ce sera la carte pluriannuelle. Cette carte, en gros, vise plus ou moins concrètement à désengorger les services de la PREF qui sont débordés, en limitant, du coup, les déplacements au guichet, mais elle n'apporte aucune garantie de stabilité aux migrants, ce qui est quand même un peu la condition qui est nécessaire pour réussir à s'intégrer dans un pays. En fait, le texte prévoit des contrôles permanents, susceptibles d'entraîner le retrait du titre de séjour à tout moment. Enfin, les Amoureux du banc public déplorent que ce projet de loi ne prévoit aucune disposition visant à faciliter le droit au respect de la vie privée et familiale. L'idée du projet de loi est d'identifier plus efficacement les étrangers susceptibles d'être conduits à la frontière, mais également de garantir leur éloignement. En gros, ils préparent à avoir les coudées un peu plus franches encore pour pouvoir être encore plus efficaces encore. Et sous prétexte de lutter plus efficacement contre les fraudes, les préfets auront des pouvoirs accrus en matière de surveillance et de contrôle. Ils pourront avoir accès à tout document et information émanant aussi bien de structures publiques comme les administrations fiscales, la sécu, les écoles, les hostos, etc., etc., ou de structures privées aussi, pour remettre en question les titres de séjour en cours de validité, par exemple, ou expulser les migrants en situation irrégulière. Enfin bref, du coup, la traque se généralise encore un peu plus. Le recours à l'assignation à résidence, à présent, ne sera plus seulement réservé aux migrants faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, mais aux demandeurs d'asile qui seront en cours de procédure. C'est-à-dire que vous allez déposer à l'OFPRA votre demande d'asile. Il y a normalement un temps où vous êtes accueilli en France en tant que demandeur d'asile. Et bien là, ce temps pourra être une assignation à résidence, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas bouger de chez vous. Enfin et encore, le projet de loi renforce la surveillance des demandeurs d'asile qui ont obtenu un hébergement. En effet, du coup, il y a des cadas quand ils arrivent à avoir une place, les gens, puisque souvent ils se retrouvent même à la rue ou dans des squats. Du coup, les demandeurs d'asile qui quitteraient leur lieu d'hébergement sans autorisation verraient sa procédure clôturée, tout simplement. Et ainsi, sa demande de protection auprès des autorités ne sera même pas examinée. Il y a une autre attaque, c'est par rapport au droit à la santé, concernant le droit au séjour pour raison médicale, c'est-à-dire quand vous pouvez pas ou mal être soigné dans votre pays d'origine, vous pouvez être accueilli en France pour des raisons médicales. Le projet prévoit de confier les examens, non plus à des médecins du ministère de la Santé, mais à des médecins du ministère de l'Intérieur. Ça sent quand même un peu l'arnaque, quoi. Et ensuite, sur le plan des droits et des mesures judiciaires, alors là, je vais pas parler de tout parce qu'il y avait beaucoup de mesures qui étaient un peu complexes. Du coup, je vais en parler juste de deux. Celle qui, du coup, dans un souci de rendre les mesures d'éloignement du territoire toujours plus efficaces, le projet de loi réduit les délais pour contester les décisions des préfets auprès des tribunaux administratifs. C'est-à-dire que quand vous êtes fait choper et que vous voulez contester votre expulsion du territoire français, il y a un délai. Normalement, ce délai était de 30 jours. Et bien là, dans certaines situations, le délai va être rabaissé à 7 jours, ce qui fait une semaine, ce qui est quasi rien pour préparer un recours, des papiers ou rien du tout. Enfin, la demande d'asile en rétention sera traitée selon une procédure particulière, c'est-à-dire que si on est déjà en centre de rétention et que c'est là qu'on fait sa demande d'asile, eh ben ça ne sera pas traité de la même manière. Et le demandeur d'asile pourra même être éloigné, c'est-à-dire expulsé, avant la fin de l'examen de sa demande de protection. Alors là, ce qui fait complètement un non-sens. Genre, on te met dehors, et si jamais on te dit oui, bon, on va te faire revenir, bien sûr.
Du coup, tu seras mort entre-temps.
Et voire, tu seras peut-être même fait buter dans ton pays d'origine, effectivement. En tout cas, la CIMAD et les amoureux au banc public font toute une liste de demandes que je ne vais pas lister là, mais je vous encourage à aller sur leur site pour voir justement tout ce qu'ils demandent comme recours et réformes, et qu'il y en a qui sont quand même intéressantes, même si on peut toujours demander. Voilà.
Faut que ça sache.
Quelques nouvelles de Calais. Donc, 11 Soudanais envoyés au centre de rétention de Ménilamlo, donc près de l'aéroport de Roissy, pour être expulsés au Soudan, ont tous été libérés hier mardi. Donc le préfet du Pas-de-Calais a utilisé le même subterfuge qu'en juillet dernier. Il n'a pas demandé la prolongation de la rétention au-delà des 5 jours. Conséquence, le juge des libertés et de la détention n'a pas eu à se prononcer sur la légalité de l'arrestation et du placement en rétention. Donc en clair, le préfet échappe au juge. Donc je ne vais pas vous expliquer exactement les tenants et les aboutissants juridiques, mais ça a permis ça. Les 5 personnes qui sont passées devant le tribunal administratif lundi ont vu les décisions les concernant confirmées, donc OQTF, placement en rétention, expulsion vers le Soudan, et le jugement des personnes qui devaient passer mardi a été renvoyé en formation collégiale. La procédure est en effet différente selon que les personnes sont en rétention ou non, et il en sera probablement voilà. Par contre, le juge n'a pas caché sa colère devant le détournement de procédure dont se rend coupable le préfet du Pas-de-Calais. La rétention a pour but l'expulsion des personnes, et si le préfet abandonne toute démarche après 5 jours, ça signifie que le placement en rétention est sans objet et donc illégal. Il s'agit uniquement de coups médiatiques et d'intimidation de la part du préfet du Pas-de-Calais. Donc 5 d'entre eux ont donc une OQTF valide sur la tête et peuvent être placés en rétention en cas d'arrestation et se retrouver au Soudan par manque de réflexe de recours administratif, etc.
Voilà.
Et les autres ont leur OQTF suspendu jusqu'au jugement en formation collégiale, ce qui est une bonne nouvelle. Donc une illustration de plus d'une politique d'intimidation, de violation des droits et de fuite des conséquences judiciaires qui est celle du gouvernement. Sinon, il y a eu un mort lundi. Ça a été un petit entrefilet dans la presse locale. Donc le corps d'une personne qui pourrait être un exilé a été retrouvé sur l'autoroute A16 entre Calais et Boulogne, donc près de Saint-Ingle-Vert. Et ce qu'on peut savoir, c'est que des exilés essayent effectivement de monter dans des camions en partance vers le Royaume-Uni sur les aires d'autoroute près de Marquise et de Boulogne, et qu'ils et elles sont nombreuses à se déplacer le long de l'autoroute, notamment de nuit, et que le risque d'accident est donc important. Et aussi que l'engorgement de Calais accentue le phénomène de dispersion jusque très en amont sur les autoroutes. Et aussi, on sait malheureusement qu'on est arrivé à un point où il n'est plus exceptionnel qu'un chauffeur qui percute une personne, un exilé ou une exilée, ne s'arrête plus. Donc, on sait que cette personne est morte et que son faciès l'assimile à un migrant. Et on peut au moins espérer qu'on saura lui restituer un nom et une histoire.
Et ben voilà, c'est la fin de ce Canu Info.
Alors, on n'a pas préparé d'agenda, mais ce qu'on voulait absolument vous dire, c'est ce week-end, écoutez Radio Canu, regardez des films, faites des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire chez vous.
Surtout, ne sortez pas à Lyon. Quittez Lyon, il va y avoir une catastrophe nucléaire qui va vous rendre épileptique. Il y a déjà des couleurs à vomir qui commencent à se trimballer partout. Fuyez.
Bon, attendez, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, j'avais quand même pas m'attarder
encore
beaucoup,
faire des tiroirs.
J'avais une micro-nouvelle qui fait quand même toujours un petit peu de baume au cœur. Un accident d'hélicoptère, c'est au Burkina Faso, mais c'est un militaire français qui était dans l'hélicoptère, il est mort.
Ah, c'était une blague ou...
Non, c'est vrai.
Ah, d'accord. Je fais des blagues comme ça.
Bah, on se demande ce qu'il foutait au Burkina, en réalité, on se demande pas entièrement, hein, mais... Voilà.
La semaine prochaine.
On laisse l'antenne et l'agenda idée noire.
Ouais, on va faire ça. Et ben,
ciao
la semaine prochaine.
Ciao.